www.voaafrique.
Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Élection présidentielle ce mardi 3 novembre ici aux États-Unis. Le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ont livré lundi soir leurs derniers efforts de campagne dans les États clés. Dans moins de 5 minutes, une page spéciale avec Jean-Roger Bion et Lionel Gahima. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat controversé sur le score fleuve de 94,27% des voix au premier tour, l'opposition ayant boycotté le scrutin selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante dans la nuit de lundi à mardi. Et donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara, a déclaré le président de la commission électorale, Ibrahim Koulibaly Kuiber, après avoir lu les scores. Le taux de participation est de 53,90%. Par ailleurs, des détonations provoquées par des individus non identifiés et qui n'ont fait aucun blessé ont résonné lundi soir devant les domiciles à Abidjan de 4 leaders de l'opposition, l'ancien président Henri Konan Bédié, l'ex-premier ministre Pascal Affingessan, Assoua Adou, secrétaire général de la branche du FPI qui avait présenté la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo, et Abdallah Albert Mabri Touakes, ancien ministre qui a rejoint l'opposition avant le scrutin du 31 octobre. À noter que l'opposition a annoncé lundi qu'elle allait former un gouvernement de transition. Nous y reviendrons avec Yacouba Ouédraogo dans quelques instants. Et dans un tweet de l'ambassade américaine à Abidjan, je cite, « L'ambassadeur des États-Unis n'a pas rencontré le candidat Bédié ce week-end. Les États-Unis respectent l'ordre constitutionnel en République de Côte d'Ivoire que le président Ouattara dirige encore et exhorte tous à respecter l'ordre constitutionnel et à éviter la violence. » Pendant ce temps, en Guinée, 4 candidats déclarés perdants à la présidentielle du 18 octobre, dont celui d'Hélène Diallo, le principal opposant du pays, ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester la victoire du président Alpha Condé à un troisième mandat. Ce sera avec Nathalie Barge. Au Mali, la ministre française des armées était à Bamako lundi, où elle a réitéré le soutien de Paris aux forces maliennes face aux djihadistes et annoncé la mort de plus de 50 d'entre eux dans une opération près de la frontière avec le Burkina Faso, lors de sa première rencontre avec les autorités de la transition. Florence Parly a fait état de frappe vendredi sur une très importante colonne de combattants d'Ansarul Islam de Malam Diko liée à Al-Qaïda. Au Cameroun, le gouvernement a annoncé lundi que 9 personnes ont été blessées dimanche soir par l'explosion d'une bombe artisanale dans un bar de Yaoundé, le 4e attentat de ce genre en moins de 5 mois dans la capitale. République démocratique du Congo en pleine crise au sein de la coalition aux affaires, le président Félix Tshisekedi a entamé lundi des consultations nationales afin de créer une union sacrée et aussi pour tenter d'asseoir son pouvoir face au camp de son allié et prédécesseur Joseph Kabila. L'assaillant tué par la police après un attentat qui a fait 3 morts lundi soir à Vienne était une personne radicalisée. Un sympathisant du groupe islamique ou du groupe djihadiste État islamique a annoncé mardi matin le ministre autrichien de l'Intérieur. Le bilan des victimes des fusillades a par ailleurs été revu à la hausse. 2 hommes et une femme sont décédés. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. Washington DC, La Voix de l'Amérique, VOA Afrique. suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine de ce mardi. Ce mardi 3 novembre, ici aux États-Unis, le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ont lancé lundi le sprint final d'une campagne présidentielle marquée par un record du nombre de votes par anticipation, pendant que leurs équipes se préparent déjà à des litiges sur le comptage des résultats. Le point avec Jean-Roger Bion.
Dans une année marquée par la pandémie de coronavirus, le vote par anticipation a atteint un niveau record. Plus que 95 millions d'Américains ont déjà fait leur choix, soit en personne, soit par voie postale, ce qui représente environ 40% du corps électoral. Ce niveau sans précédent de vote anticipé signifie que le dépouillement pourrait prendre des jours, voire des semaines dans certains États, et que le nom du vainqueur du scrutin ne sera peut-être pas connu à la fermeture des bureaux de vote mardi soir. Le président sortant, qui ne cesse de contester le vote par correspondance, a laissé entendre qu'il enverrait des avocats dans les États qui continueront à dépouiller les bulletins après l'Election Day. Justin Clark, la directrice adjointe de campagne de M. Trump, a prévenu que son équipe attaquerait toute tentative des démocrates de contourner les dates butoirs des États pour recevoir et compter les bulletins. La directrice de campagne du démocrate Joe Biden, Jennifer O'Malley Dion, a déclaré quant à elle à la presse que les États avaient traditionnellement besoin de temps après une nuit électorale pour terminer leur comptage. À la veille de l'élection, M. Trump, 74 ans, a multiplié les meetings pour tenter de décrocher la majorité de 270 grands électeurs au collège électoral nécessaire pour l'emporter sur 538 délégués. Lors d'un meeting à Scranton, dans l'est de la Pennsylvanie, l'un de ses États bascule de l'élection, il a rappelé à une foule enthousiaste qu'il avait gagné l'élection de 2016 contre Hillary Clinton malgré des sondages défavorables. Après la Pennsylvanie, Donald Trump s'est rendu dans le Wisconsin et le Michigan, deux États où il s'était imposé face à Mme Clinton en 2016, mais où son adversaire Biden a de bonnes chances de l'emporter cette fois-ci, à en croire les sondages d'opinion publique. Il a achevé sa campagne par un dernier rassemblement à Grand Rapids, dans le Michigan, là où il avait bouclé en 2016 sa précédente campagne. Au même moment, Joe Biden, 77 ans, faisait campagne dans l'ouest de la Pennsylvanie, à Monaca, où il a déclaré à ses partisans que l'avenir était entre leurs mains. « Ce qui se passera ce mardi déterminera le visage du pays pendant des générations », a déclaré l'ancien vice-président de Barack Obama. En plus de désigner un président aujourd'hui, les millions d'électeurs américains voteront sur le renouvellement du Congrès. Les sièges de 35 des 100 sénateurs et de l'ensemble des 435 élus de la Chambre des représentants sont en jeu. Jean-Roger Billon, VOA Afrique, Washington.
Il s'agit assurément d'une semaine décisive ici aux États-Unis avec la tenue des élections du 3 novembre. Combien de personnes iront voter? Combien de temps faudra-t-il attendre pour connaître les résultats? Et qui sera le prochain président américain? Michel Quinn de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
À la veille du scrutin, le président Donald Trump et son challenger Joe Biden font leur dernier discours pour convaincre les électeurs. Une première grande inconnue, c'est le taux de participation. Demain, les électeurs vont-ils éviter de se rendre en personne aux urnes à cause du COVID-19 qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis? Selon le US Election Project, plus de 93 millions de personnes ont déjà voté, soit environ 67% des votes anticipés de 2016. Chaque camp se dit assuré de remporter la victoire. Jason Miller, conseiller principal de la campagne Trump, assure que Trump a élargi sa base de soutien, en particulier parmi les hommes noirs et les latinos, ainsi que dans les États qui ont été historiquement des bastions démocrates.
L'ensemble de l'électorat a changé. Les coalitions sont différentes. Le fait que l'autre jour, Joe Biden ait dû retourner dans le Minnesota, un État que les républicains n'ont pas gagné depuis 1972, montre à quel point ils sont inquiets du changement dans les États.
De leur côté, les démocrates assurent que la feuille de route vers la victoire est en train de changer pour eux et que les États normalement républicains vont se disputer jusqu'au bout. Biden et sa colistière Kamala Harris se sont rendus récemment au Texas, en Géorgie et dans l'Iowa, des États qui avaient soutenu Trump en 2016. Anita Dunn, principale conseillère de la campagne Biden, estime que la participation battra tous les records parce que les gens veulent voir le changement.
Mais si vous regardez l'enthousiasme énorme lors du vote anticipé, les chiffres records de vote anticipé, les gens iront voter. Et nous allons savoir le jour du scrutin qu'un nombre record de personnes se sont probablement rendues aux urnes parce qu'elles veulent le changement.
Personne ne sait quand les résultats seront disponibles après la fermeture des bureaux de vote. Les Américains vont devoir attendre un peu plus pour savoir qui sera le prochain président des États-Unis.
Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, l'opposition a annoncé qu'elle a créé un Conseil national de transition, présidé par l'ancien chef d'État Henri Konan Bédier, après une présidentielle émaillée de violences qui ont fait au moins 9 morts. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le Conseil a pour mission de mettre en place un gouvernement de transition, a affirmé l'ancien Premier ministre Pascal Lafingue-Guessan au nom de toute l'opposition au chef de l'État Alassane Ouattara, qui devrait décrocher un troisième mandat controversé. Le Conseil national de transition aura pour mission de préparer le cadre d'une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et de convoquer des assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d'Ivoire, a ajouté M. Nguessan, qui dit constater la vacance du pouvoir exécutif avec la fin du mandat présidentiel de Alassane Ouattara. Dimanche, l'opposition avait appelé à une transition civile. Avant le scrutin, une trentaine de personnes sont mortes dans des violences faisant craindre des troubles 10 ans après la crise post-électorale de 2010 qui a fait près de 3000 morts.
En Guinée, 4 candidats déclarés perdants à la présidentielle du 18 octobre, dont Sélou Dalène Diallo, arrivé deuxième selon la commission électorale, ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester la victoire du président Alpha Condé. Nathalie Barge.
Sélou Dalène Diallo, qui a obtenu 33,5% des suffrages contre 59,5% pour Alpha Condé, selon la commission électorale, affirme disposer de preuves que le scrutin a été entaché d'irrégularités, a indiqué son avocat Amadou Diallo. L'opposant demande à la Cour constitutionnelle de faire annuler le vote dans la région de Kankan et de proclamer victorieux Sélou Dalène Diallo, qui affirme avoir remporté 53% des suffrages. 3 autres des 12 candidats ont également introduit des recours. Il s'agit d'Ousmane Kaba, d'Ibrahima Abessila et de Makalé Traoré. La Cour dispose de 5 jours pour statuer sur l'élection. L'Union européenne et les États-Unis ont mis en doute la crédibilité des résultats annoncés par la CENI. Certains candidats de l'opposition ont appelé à la reprise des manifestations ce mardi.
En Éthiopie, au moins 32 civils ont été tués dimanche à l'ouest lors d'une attaque menée par un groupe armé. C'est ce qu'a indiqué lundi la Commission éthiopienne des droits humains. Abdourahmane Diab.
Pour la Commission éthiopienne des droits humains, le bilan pourrait même être plus lourd. Les assaillants ont ciblé les membres de l'ethnie Amhara, la plus importante d'Éthiopie après les Oromo, estime la Commission. Les autorités régionales d'Oromia avaient accusé plus tôt l'armée de libération Oromo d'avoir mené cette attaque dans la zone de Wolega. Des citoyens pacifiques ont été tués de manière horrible, avait-elle indiqué dans un communiqué sans donner de bilan. Un survivant a expliqué que les assaillants avaient attaqué peu après le retrait soudain et inexpliqué des soldats stationnant dans la zone. Ces violences interviennent dans un contexte de violences ethniques croissantes qui mettent sous pression le premier ministre Abiy Ahmed, lauréat en 2019 du prix Nobel de la paix et originaire de cette même région de l'Oromia. M. Abiy a accusé des forces destructrices, leurs chefs étrangers et leurs courtisans infiltrés au sein du gouvernement de mener des attaques dans le pays sans autre détail.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Éliminatoire AfroBasket 2021 en attendant de rejoindre Kigali au Rwanda. D'ici fin novembre, les Léopards Basketball Messieurs de la République démocratique du Congo se préparent en petit nombre à Kinshasa. sous la supervision du sélectionneur Charlie Bouzangou, qui veut une fois de plus redorer l'image du basketball congolais. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Valdo Yamba Yamba.
Vainqueur en 2019 de la première édition de l'Afrocan avec le loco et une participation au premier tour des éliminatoires du Mondial Chine 2019, le Léopard Basketball Monsieur de la RDC affûte déjà leurs armes à Kinshasa en prévision des éliminatoires de l'Afro Basketball Kigali 2021 en dépit des problèmes des moyens auxquels ils font face, confie le coach Charlie Bouzangou.
C'est pour cela qu'on a commencé timidement quelques préparations vu aussi les moyens.
Problème qui ne réduit nullement les objectifs de la sélection congolaise lors de ces éliminatoires, puisque du 27 au 29 novembre à Kigali, les coachs et son staff technique se donnent une mission bien spécifique.
La mission, elle est là, elle est réelle. Oui, et la mission, c'est d'arriver à faire valoir la RDC sur le plan africain.
Il faudra à cet effet arriver à Kigali au plus tard le 23 novembre. Question de faire jonction avec tout l'effectif sur place, puisqu'il y a une de trois places à prendre dans un groupe A où loge la Tunisie, le Madagascar et la République centrafricaine. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Ligue des champions, ce soir en Europe, le Bayern Munich en rouleau compresseur reste sur 13 succès du rang dans la coupe aux grandes oreilles et entend bien passer à 14 à Salzbourg, petit poucet du groupe A. Dernier de son groupe, après deux journées, le Real Madrid tient avec la réception de l'Inter Milan une double occasion, se relancer dans la course au huitième de finale et tenir une victoire en référence face à un autre grand d'Europe. Le FC Porto reçoit l'Olympique de Marseille pendant que Manchester City accueillera l'Olympiakos. L'Atalanta Bergame jouera son premier choc avec la réception de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019. De son côté, l'Ajax Amsterdam tentera d'aller chercher à Midtjylland un premier succès cette saison.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, à votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour consacrés aux vues d'auditeurs sur la présidentielle de ce mardi 3 novembre entre le président sortant Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Nous commençons par des citoyens nigériens.
Au vu de ce premier mandat fait par le président Trump, qui a bouleversé carrément l'ordre mondial, qui c'est quelqu'un qui est un anti-multilatéraliste, il met tous les principes et les acquis en cause. Je pense qu'on ne souhaite pas que ce monsieur puisse venir.
Je ne suis pas avec beaucoup d'intérêt cette campagne américaine, mais peut-être comme ici, je pense que Donald Trump va continuer son pouvoir, son second mandat. Et vu que Trump, dans sa politique, est franc, je pense que sans démagogie, il sera reconduit à son poste de président des États-Unis d'Amérique.
Ma préférence va pour Joe Biden parce que je suis démocrate de nature. Les idées républicaines, je les trouve un peu trop extrémistes parce que la haine de l'étranger, n'est-ce pas, considérer que les États-Unis sont le centre du monde, à part les États-Unis, il n'y a personne, je pense que ce n'est pas une bonne idéologie. J'estime et je souhaite en tout cas que Joe Biden puisse gagner les élections.
Je préfère Trump parce que je le trouve très nationaliste. C'est un Américain pur dur. Et tout ce qu'il lui fait, il le dit ouvertement. Et il le dit, il le fait pour les Américains et non pour les autres. C'est un modèle que j'aimerais bien que nos hommes politiques adoptent ici. Donc moi, je suis Trump.
Au Niger comme ailleurs, les gens s'intéressent à ces élections-là. Par exemple, au Niger, on sait que les États-Unis sont engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pour nous, évidemment, c'est bien de savoir aujourd'hui, de par ces élections, comment est-ce que ces questions-là seront-elles impactées? Je pense que ces élections revêtent un caractère assez particulier. La présidence de M. Trump a été un moment quand même assez particulier de l'histoire des États-Unis. On a vu que pendant cette présidence, les États-Unis ont eu du mal à gérer leurs anciens démons. Par exemple, la question du racisme qui est revenue de plus belle. On se demande aujourd'hui, est-ce que les Américains feront le choix de changer de locataire à la Maison-Blanche en confiant la présidence à M. Biden, par exemple, pour mettre fin à tout ce qu'on a connu avec l'assassinat de George Floyd, avec tout ce que les États-Unis ont connu, des manifestations de rue, etc. Est-ce que les Américains vont dans ce sens? Et donc, ça permettrait pour le reste du monde d'avoir de revenir aux fondamentaux de la politique, avoir un locataire qui veut peut-être promouvoir la démocratie, la paix, lutter contre le terrorisme et qui peut s'intéresser à des enjeux majeurs comme le climat. Ou alors, est-ce que les Américains vont continuer à faire confiance à M. Trump parce qu'il leur vend des idées sur la lutte contre la migration, il leur parle des America First, etc., etc. Donc, on se pose aussi énormément ces types de questions. Donc, à la fois, on s'intéresse, vu le rôle que jouent les États-Unis à travers le monde, mais on s'intéresse aussi de voir, y compris au plan de la politique intérieure des États-Unis, comment les électeurs vont se comporter face à ces deux candidats qui sont quand même assez différents.
Propos recueillis par notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Mali, beaucoup suivent aussi avec attention la présidentielle américaine et les campagnes des candidats républicains Donald Trump et démocrate Joe Biden. Cette année, l'ambassade des États-Unis à Bamako a organisé une formation des journalistes sur la couverture de la présidentielle américaine. Précision de Kassim Traoré.
Le pays de l'Oncle Sam est à la recherche de son 46e président. Dans la capitale malienne, le scrutin du 3 novembre intéresse certains Maliens.
Je m'appelle Dumbia Assa, que l'élection américaine est très importante pour nous. Les États-Unis sont considérés comme la grande puissance mondiale. Donc, leur élection impacte sur l'économie mondiale. On veut que la personne qui sera élue président des États-Unis soit une personne qui soit apte à donner les grandes lignes pour de grands partenariats.
Le Man Koulibaly a résidé aux États-Unis pendant 30 ans. Il est de retour au Mali, mais suit de près la campagne électorale sur les chaînes de télévision et radio. La présidentielle américaine s'invite dans les causeries et autres grains de la capitale malienne, mais avec moins de tensions.
Abdoulaye Bessé, communément appelé ABC, le président américain s'est prononcé l'autre jour par rapport aux élections par courrier, qu'il voit que les élections par courrier ne vont pas à son faveur. À travers mes convictions, je vois Joe Biden comme favori. Je souhaite que l'élection se passe dans l'amiable.
Monsieur Sidati Koulibaly, nous en tant qu'Africains, nous souhaitons que vraiment un président soit élu qui va vraiment fructifier les relations entre l'Afrique et les États-Unis, ce qui serait notre souhait pour la présidence des États-Unis.
Au niveau de l'administration publique malienne, la présidentielle aux États-Unis est très sûre car le pays de l'oncle Sam aide le Mali dans la lutte contre le terrorisme.
Nous, on est vraiment très concernés parce que c'est une première puissance qui nous aide beaucoup plus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes les Américains, ils sont là, ils aident le monde entier. On est fiers d'eux, surtout au nord. L'armée malienne est équipée et renseignée par les Américains. Nous comptons sur vraiment la pour qu'il y ait la paix dans ce monde.
Dans le cadre de ces élections présidentielles, l'ambassade des États-Unis au Mali a formé une dizaine de journalistes sur le système électoral américain. Maliki Diallo de Renouveau Télé était parmi les journalistes qui ont participé à cette formation virtuelle.
Moi, personnellement, j'ignorais beaucoup de choses sur l'élection aux États-Unis. Je n'arrête pas de me poser la question, quelle est l'élection des grands électeurs? Quelle différence entre les grands électeurs et la masse populaire? Et comment les grands électeurs sont choisis. Et aujourd'hui, je peux écrire sur l'élection. Je peux aussi informer beaucoup de gens, beaucoup de mes lecteurs, beaucoup de nos téléspectateurs sur comment se passe l'élection aux États-Unis.
À cause de la maladie à coronavirus, la traditionnelle soirée électorale ne sera pas organisée cette année par l'ambassade des États-Unis. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'élection présidentielle américaine de ce mardi 3 novembre ne laisse pas non plus les Camerounais indifférents. La campagne électorale, les débats télévisés sont suivis à travers diverses plateformes. La jeune génération qui croit aux rêves américains ne cache pas sa préférence pour un président américain favorable aux flux migratoires au terme du scrutin de ce 3 novembre, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Julta.
Corinne et Jean-Marc sont tous deux étudiants en pétrochimie à l'Université catholique Jean-Paul II à Yaoundé. Ils manifestent un intérêt particulier pour la prochaine élection présidentielle américaine. C'est avec beaucoup d'attention qu'ils suivent la campagne électorale et notamment la question de l'immigration, telles que soutenues par les candidats Donald Trump et Joe Biden.
Nous voulons une personne qui va permettre à celles qui veulent connaître la technologie là, de pouvoir entrer aux États-Unis. Et pour ça, je pense que le candidat Donald Trump n'est pas la personne indiquée.
Il devrait prôner l'immigration pour permettre aux jeunes Africains ou Camerounais, s'ils veulent peut-être aller continuer les études, cela pourrait beaucoup les aider.
Aristide est un étudiant en informatique à l'Institut supérieur Sciences Po. Il a regardé, malgré l'heure tardive, les deux débats télévisés mettant aux prises Donald Trump et Joe Biden. C'est ainsi qu'il a, selon lui, pu se faire une idée des priorités des deux adversaires durant leur prochain mandat.
La position de Donald Trump est beaucoup plus axée sur la puissance américaine. Il cherche à écraser l'évolution des autres puissances, que ce soit occidentales, asiatiques et autres. Joe Biden, lui, il est beaucoup plus axé sur les questions de femmes. Il a profité des émeutes qu'il y avait la dernière fois avec l'assassinat du noir et du Covid même en quelque sorte. Parce que toutes les analyses montrent que Donald Trump a complètement échoué sur la question de la maîtrise du Covid-19.
Un mouvement de soutien au président Donald Trump, baptisé Trump African Supporters, existe depuis 2015 et est dirigé depuis le Cameroun par André-Marie Dibamo. Il est auteur d'un récent ouvrage intitulé « Le phénomène Trump et l'effondrement de l'ordre établi ». André-Marie Dibamo, président de la Trump African Supporters.
Malgré la pandémie de la COVID-19, le président Trump continue littéralement de séduire, malgré son âge, malgré le Trump bashing et tout ce que vous pouvez imaginer, il continue de séduire, y compris en Afrique, y compris dans la communauté noire. Il vous souvient notamment qu'il a bénéficié d'un soutien inattendu de Sarah Sanders, qui a littéralement consacré un ouvrage de 400 pages sur la vie de Donald Trump.
Cependant, certains clichés, comme l'âge avancé des deux candidats à la course pour la Maison-Blanche, laissent les Camerounais interrogateurs sur le rajeunissement de la classe politique américaine.
On a pour habitude de dire qu'en Afrique, ce sont des vieux qui dirigent aux États-Unis. Quand on regarde aussi également l'âge des candidats de ce côté-là, on se dit peut-être que la jeunesse aurait peut-être son mot à dire pour la suite des événements.
On voit ce pays qu'on pense, ils sont de modèle pour nous, faire aussi pareil si on se pose la question que le pouvoir est gouverné uniquement par les vieux.
Les Camerounais sont impatients de voir la nature des relations diplomatiques entre Washington et Yaoundé lors du prochain mandat. Au cours du précédent, les rapports entre l'administration Trump et le régime de Yaoundé ont été parfois tendus sur les questions de droits de l'homme et de la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, chacun a ses admirateurs. Les avis restent bien partagés, mais les analystes pensent que cette élection américaine aura une répercussion certaine sur le continent africain, selon notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Si la semaine prochaine, les États-Unis connaîtront leur nouveau président à des milliers de kilomètres à Ouagadougou, la présidentielle américaine est commentée. Les avis sont partagés.
Je pense que Joe Biden, en tout cas, parle avec un certain avantage.
Ousmane Rwamba, étudiant en économie en fin de cycle.
Étant donné qu'il a un bon tempérament, il connaît en tout cas beaucoup de trucs par rapport à Donald Trump. Bien vrai que Donald Trump est le président actuellement, mais je pense que Joe Biden est favori.
Anissé Sawadogo est étudiant en droit.
Joe Biden doit être en meilleure position par rapport à Donald Trump. Au regard des sorties médiatiques de l'ancien président Barack Obama dans ces deux jours, j'ai ouï dire qu'actuellement, il est en train en tout cas de donner beaucoup de points à Joe Biden par rapport à Donald Trump qui perd des points chaque jour à l'approche des élections.
Kiswensida Kabore, étudiant en sciences juridiques et politiques.
Quoi qu'on dise sur Donald Trump, j'avais une réalité sur la personne où il nous épate et il nous surprend à tout moment. Et sur le plan international, nous voyons les actions qu'il pousse. Il n'a pas besoin de tenir compte sur certain nombre de choses avant de faire certaines choses. Donc moi, je vois une personne qui semble être réaliste et une personne républicaine. Donald Trump, je vois qu'il a une position bien placée.
Voilà ce que pense l'analyste en cas de victoire de Donald Trump ou de Joe Biden.
Si le président actuel, Donald Trump, est réélu, nous allons assister donc à une plus grande austérité en ce qui concerne l'aide publique au développement. Contrairement donc à Joe Biden, où on pourrait espérer plus de largesse au niveau donc social, beaucoup plus d'accompagnement des pays, surtout en voie de développement.
Les Burkinabés resteront scotchés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuya et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.